Voilà, Goulat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Et il y a une Goula finale, qui est la fin de l'histoire, qui est la Goula lorsque on aura éradiqué le mal. Dans la Géoula de Mitzrayim, on n'a pas éradiqué le mal. Mais avant de voir cette distinction, je voudrais juste parler un petit peu de la différence entre la Géoula de Mitzrayim et la Géoula de Pourim. Pourim, c'est aussi une Géoula. La Géoula de Mitzrayim, c'est une Géoula dans laquelle nous étions esclaves et nous avons été libérés. Et en fait, c'est une libération qui a débouché sur quoi exactement? Ça n'a pas débouché sur une libération immédiatement, dans la mesure où, en fait, avec la sortie d'Égypte, on est devenu esclave d'Hachem. Avdé Hachem. Mais c'est cette avdoute d'Hachem, c'est-à-dire c'est cette situation dans laquelle nous sommes esclaves d'Hachem qui nous libère. Elle nous libère parce qu'elle permet de n'être plus esclave de qui que ce soit d'autre, de quoi que ce soit d'autre. Quand j'entends on n'est pas esclave de quelque chose d'autre, c'est contradictoire dans les termes, puisque voilà qu'à Pourim, on était de nouveau esclave. En fait. Mais ça veut dire qu'on n'est essentiellement pas esclave. On est superficiellement esclave, mais pas essentiellement. On était essentiellement esclave en Égypte. De cette essentialité, on est complètement sorti et on est devenu essentiellement libre parce que on appartient à Hachem et que d'appartenir à Hachem, ça nous libère d'appartenance à qui que ce soit d'autre. Personne, on ne peut pas être esclave de personnes différentes. Enfin, même si ce n'est pas une personne. Et justement, on va expliquer que, bon, par la suite, que d'être esclave d'Hachem, ça n'est pas un véritable esclavage. On verra pourquoi. Et par contre, dans la sortie l'esclavage perse, en fait, bonsoir, on s'est sorti de quoi exactement? On est sorti de la solution finale qui était donc le projet d'Aman de tuer tout le monde, homme, femme et enfant. Et de cela, nous sommes sortis, mais on est resté sujet d'Achashverosh, sujet de l'empereur de Perse. Et même si effectivement la reine c'était Esther et le grand vizir c'était Mordechai, on est néanmoins encore toujours dépendant d'Achashverosh et ça, merci, ça nous empêche d'être complètement libre, quoi, quelque part. Ça empêche d'être pleinement Avdé Hachem. On est Eved Hachem essentiellement, mais concrètement, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire comme on voudrait les faire, parce que par où nous en enchaînons, parce que, pardon, sous la domination d'Achashverosh, mais ce sera la vérité, ce sera la même chose sur toutes les, enfin, sous les Grecs, sous les Romains, aujourd'hui, toujours. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on est en galoute, c'est-à-dire, et aujourd'hui, de façon assez tragique, il y a pas mal de gens qui ont oublié qu'on était en galoute. Des gens qui se conduisent comme si on n'était pas en galoute, et ça a des conséquences éventuellement dramatiques. On est en galoute partout, en Eretz Israël comme ailleurs, et il y a des gens qui ont oublié ça, et ça peut avoir des conséquences dramatiques pour le clan Israël. Oui. C'est d'être dépendant de quelqu'un.
Et voilà, c'est pas.
C'est une dépendance, pas que c'est.
Je choisis depuis que je suis dépendant.
Pardon, je n'ai pas choisi. On est dépendant de. Nous sommes dépendants d'Hachem,
Oui.
Absolument, mais maintenant, en ce moment, on est, depuis pas mal de temps, on est dépendant de ce galoute d'Édom, où Édom prend toutes sortes de visages successifs. D'accord? C'était un moment de les Romains, après c'était l'Église catholique, et ensuite, je ne sais pas, la Russie communiste, aujourd'hui c'est peut-être l'Amérique, je ne sais pas comment il faut définir la dépendance.
Est-ce qu'on peut envisager que, mettons que je vive au milieu de cette galaxie-là, et que je dise, moi, je ne vous reconnais pas, je reconnais que
Mais tu peux pas le faire parce
de.
que tu es leur sujet. Qu'est-ce que tu vas faire? Je reconnais pas. Tu essaies de pas de pas respecter la loi française. Tu vas te retrouver en tôle. Ça, c'est la tôle, c'est encore la tôle française, c'est encore bon. Mais il y a des pays où si tu respectes pas la loi, c'est tu risques ta peau.
Être dans la galoute d'Édom quand on est en Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être sous
Essaye de regarder ce qui va se
l'influence?
passer si Israël, ce qui va se passer si Israël veut faire, si les Israéliens veulent envoyer des avions pour détruire les réacteurs iraniens et que les Américains refusent de leur donner les pièces de rechange.
Donc c'est une question de l'influence des décisions qui sont prises au niveau du pays, une absence d'indépendance par rapport à l'opinion mondiale.
La vérité, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui pratiquement aucun pays n'est complètement indépendant.
C'est ça.
Même les Américains ne sont pas complètement indépendants, tu vois bien. Il suffit que les Chinois les empêchent de faire ceci ou cela, ou bien il n'y a pas assez de minerais, etc. Donc ça n'existe plus aujourd'hui. Donc cette idée que dans le futur, il y aura un moment où on va être complètement indépendant. Aujourd'hui, c'est une utopie complète. C'est-à-dire, on ne sait même pas comment imaginer ça. C'est-à-dire, alors bon, ça, on va faire ça.
Est-ce qu'en galoute, ça veut dire qu'en fait, Israël, officiellement, on ne peut pas dire qu'on est différent à un niveau collectif et national des autres pays, alors que quand on sera plus en galoute, c'est pas seulement qu'il y a une teshuva et quelque chose à un niveau individuel, mais qu'au niveau collectif, à ce moment-là, Israël prend sa place, c'est-à-dire n'étant plus que Oved Hashem, totalement, y compris au niveau collectif.
Tu parles de l'état messianique?
Oui,
Oui.
c'est que finalement la galoute se traduit, elle se traduit moins peut-être individuellement, sinon par l'influence des idées, etc., etc., des dômes. Mais disons, est-ce qu'on peut dire que la contrainte, quand on est en Israël, la contrainte se fait davantage à un niveau collectif et que effectivement le signe que ce serait qu'on arriverait au temps messianique serait que effectivement Israël, en tant que âme Israël et la nation d'Israël, n'aurait plus cette dépendance, c'est-à-dire que la reconnaissance de notre unique dépendance vis-à-vis d'Hachem ferait que tous les pays respecteraient tout ce qui peut être décidé collectivement en Israël parce que ce serait fait dans le projet d'Hachem.
Parce que c'est parce qu'eux-mêmes reconnaîtront Hachem,
C'est
reconnaîtront
ça.
qu'Israël joue un rôle particulier. Moi,
C'est
je
ça.
pense que on peut même, dans l'imagination, je ne vois pas autrement qu'on puisse être, mais bon, ça c'est personnel, autrement qu'on puisse être indépendant que par amour. C'est-à-dire que il n'y a que si les autres peuples désiraient nous aider, nous aiment, si vous voulez, au sens, ils ont envie de nous donner, c'est le seul moyen d'imaginer qu'on puisse être indépendant. Mais être indépendant avec des gens qui veulent pas vous donner, on est dans un monde où ou alors le monde sera complètement différent, mais c'est même pas pensable aujourd'hui. Il y a des tas de choses que tu peux pas faire, c'est pas possible. Même des grandes puissances sont incapables. Les Russes, ils font une guerre, ils sont obligés de demander aux Iraniens de leur donner des drones. C'est pas possible. Personne ne peut faire ce qu'il veut faire. Il est obligé de demander à gauche, à droite.
Quand est-ce que commence le galout?
Le galout? Quel galout? C'est le nôtre?
Le galout,
Le Maharal?
est-ce qu'on considère l'époque de Yeshua, Shoftim, comme une époque où ils sont pas en galout?
Oui, à ce moment-là, ils n'étaient pas en galoute. Ils n'étaient pas en galoute parce que ils ont eu des moments où ils étaient embêtés par les Philistins, etc., qui ne les laissaient pas vivre, qui faisaient la guerre. Mais ils n'étaient pas en galoute. Oui, non, mais on n'a pas besoin d'être expulsé. On était en galoute en Yavan aussi. Yavan, deux. On vise comme si on était, on pouvait faire n'importe quoi et ça retombe sur des sanctions, ça fait tout le monde en souffre, quoi, quelque part.
Et vous aussi dire qu'aujourd'hui, en Israël, sur la terre d'Israël, confondre la terre d'Israël telle qu'elle est aujourd'hui, un État, voilà, avec l'idéal de la terre
Oui,
d'Israël.
là, il y en a qui pensent que, même si tu dis que c'est un début ou n'importe quoi, mais ils oublient qu'on est en galoute. On le voit tous les jours, je veux dire, tu vois les réactions du monde entier, je veux dire, c'est fou, quoi. C'est extrêmement dangereux, quoi, comme situation très dangereuse, quoi. Donc là, il y avait une Géoula au sortir de l'Empire perse, quoi. Donc, on était libérés. C'est une Géoula, mais cette Géoula, elle n'est pas du tout comparable à la Géoula de Mitzrayim. Parce que la Géoula de Mitzrayim, elle est une Géoula essentielle, et la Géoula de par rapport la Géoula par rapport à la Perse, c'est une Géoula superficielle en quelque sorte, mais l'exil était aussi, l'esclavage aussi était superficiel. Ça touchait pas l'essence de les Israël pouvaient continuer de pratiquer la Torah avec des limitations, avec des ennuis, etc. Mais les Juifs étaient Juifs encore. Ils n'ont pas été. Le peuple juif n'a pas disparu complètement. Donc ça, c'est aussi la caractéristique. Ensuite, les autres exils sont du même ordre. C'est-à-dire, que ce soit Yavan ou que ce soit Edom, bon, on est dans l'état où on est. Il y a eu des moments où c'était plus ou moins difficile, des endroits où c'est plus ou moins difficile encore aujourd'hui. Bon, mais c'est un galout. Il faut pas l'oublier. C'est-à-dire, on peut pas se conduire comme si de rien n'était, parce que, si vous voulez, il y a eu des conséquences, même l'exil d'Édom, il a suivi une période où il y a des rois qui se sont conduits comme s'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Les rois qui avaient juré, allégeance, etc., même dans le premier exil aussi. Ils avaient juré allégeance à Nabucodonosor, etc. Puis ensuite, ils ont fait le contraire. Et donc, ils nous ont amenés en galoute, quoi. Ils ont fait comme s'ils étaient libres, alors qu'ils étaient déjà plus libres. Ils étaient déjà soumis, ils avaient déjà perdu des guerres. Ils étaient soumis à des impôts à payer, etc. Et ils ne l'ont pas fait. Et ça a eu des conséquences dramatique pour tout le peuple, quoi. Finalement, le Beth Amikdash a été détruit, on a été exilé, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des rois qui se sont conduits comme s'ils étaient libres, quoi, alors qu'ils ne l'étaient pas.
Ça remonte à la nuit des temps, ça. De croire qu'on est libre alors qu'on n'est pas.
Oui, mais enfin, pour l'instant, ce qui nous intéresse, nous, c'est
Oui, mais ça veut dire que c'est intrinsèquement.
l'homme a envie d'être libre. Ça dépend. Chacun donne un autre sens au mot libre, d'ailleurs. Donc, il fait souvent des choses qui sont contre, enfin, bon, qui sont contre-productives, en tout cas. Dans la génération du désert, il y a eu toutes sortes de miracles. Le Nissim Glouim, il y a eu de la prophétie. Et en même temps, Il est resté la Bechira, la possibilité de choisir de faire le mal. Et donc, si on pose la question, mais finalement, à quoi a servi la sortie d'Égypte et les miracles du désert de cette génération? C'est-à-dire, quel était le but atteint, d'ailleurs, de la sortie d'Égypte? Et la réponse, elle est assez claire. La réponse, c'est le but, c'était la Avdout. Le but, c'était de faire de Bnei Israël des Ovdei Hashem. Le but de la sortie d'Égypte, la Geoula de la sortie d'Égypte, c'était de faire des Avdei Hashem. C'est ce qui s'est passé. Hashem nous a, en quelque sorte, il a acheté les esclaves de Paro. Il a été podé Otam. Il nous a racheté, en quelque sorte, par ses nissim, par ses, etc. Il nous a racheté à Paro, qui a été obligé de nous libérer. Mais Hashem, mais on est devenu avadim d'Hashem. Ce qui était pour notre bien, c'était, il s'agissait pas du tout d'une liberté au sens habituel du terme. Mais en fait, cet exil-là, cette avdoute-là est une avdoute qui est un autre bénéfice, en quelque sorte.
C'est notre condition d'être.
Non, c'est une conséquence de l'exil de l'exil égyptien. Avraham Avinu, il n'était pas évêque d'Hachem, il servait Hachem, mais il n'était pas évêque de la Avdout au sens de la Avdout. Et là, il servait Hachem, volontairement.
Qu'il avait en lui la condition intrinsèque.
Alors, ça veut dire, pour ça, tu ne deviens pas évêque d'Hachem. Tu sers Hachem, si j'utilise les mêmes mots, parce que. Mais c'est-à-dire, tu fais ce qu'Hachem, ce que tu penses qu'Hachem veut que tu fasses, mais tu es libre de ne pas le faire, le cas échéant. Tu es vraiment libre, on ne te demandera pas des comptes. Nous aussi, on est libre de ne pas faire ce qu'Hachem nous fait, mais on va nous demander des comptes. Alors, la notion de peuple, c'est pas seulement nous qui l'avons choisi, c'est Hachem qui a voulu qu'on devienne son peuple. Hachem a dit, vous serez mon peuple et je serai votre Elohim. D'accord? C'est une condition qu'Hachem a mise. Je voudrais qu'on fasse cette espèce d'échange. Je vais être votre Elohim et vous serez mon peuple. Ça veut dire que quand Hachem s'est dévoilé comme Adon, comme le maître, ce qu'il a été il a été le maître de Paro, il s'est imposé à Paro, il s'est imposé au Bnei Israël, etc. Ça entraîne la avdout, si vous voulez. C'est comme si le couple maître-esclave s'est constitué. Hachem s'est dévoilé comme maître, et donc, automatiquement, les sujets d'Hachem sont devenus avadim. Donc, c'est vraiment ça. D'ailleurs, Rashi dit très clairement, Kedai, Rashi le dit dans Yitro, il dit, Kedai Aotsaa, la sortie d'Égypte valait la peine, tout le travail de sortie d'Égypte, pour que vous deveniez mes esclaves, mes serviteurs. Alors, le Ramban explique que être avadim, comme conséquence du pidyon, du fait qu'Hachem nous a racheté à Paro, chez Chazal, ça s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Kabbalat Ol Malchut Shamayim, traditionnellement, le geste que nous faisons, nous, régulièrement, de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est quand on dit le Shema. Quand on dit, on proclame que Hachem est Echad, on lit le Shema, c'est un moment de Kabbalat Ol Malchut. Ce n'est pas une prière, c'est une Kabbalah, c'est-à-dire c'est j'accepte, et c'est dit en termes de Ol. Un Ol, c'est en français, c'est un joug. Le joug, c'est un instrument, oui, c'est un instrument qu'on met pour obliger les bœufs à aller là où on veut qu'ils aillent. Et donc là, Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est-à-dire nous prenons sur nous un joug, le joug qui s'appelle Malchut Shamaim, qui s'appelle la royauté céleste, la royauté divine céleste. Ça veut dire on prend sur nous de faire ce que Hachem va nous demander de faire. Et ça, on le prend en reconnaissant que Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc, Shema Israël, Hachem qui est le sens de Hachem, ça veut dire ce à quoi on doit penser quand on dit le Shema. Vous pensez qu'Hachem est le Adon, il est le maître, et il est aussi Aya Ove Veiyeh, il est aussi celui qui fait tout exister. Deux choses. Et il est aussi Elokeinu, il est Elohim, c'est-à-dire celui qui a tous les pouvoirs, mais Elokeinu, mais qui s'occupe de nous en particulier. Et on répète encore une deuxième fois, Hachem, qui est le Adon et aussi celui qui est Mehavé Takol, c'est-à-dire Aya Ove Veiyeh ou Mehavé Takol, il fait tout exister, ou Echad. Celui qui fait tout exister, celui qui est notre Dieu et qui est tout le maître, etc. Tout ça, c'est Echad. Il est un. D'une unité qu'on sait pas, qui a pas de son pareil, quoi. C'est une unité absolue, un insécable, absolument, indécomposable d'aucune manière. C'est un qui n'a pas de pareil, quoi, si vous voulez. C'est ça qu'on veut dire, donc c'est. Pardon?
C'est un pain qui n'est précédé par rien.
Ni précédé, ni. Bien sûr que non, non, il ne précédait pas rien, évidemment.
C'est une comment on peut nous comment en fait
Notre lien, c'est le fait que nous le prenons comme le maître du joug que nous avons pris sur nous. On le prend comme roi, si tu préfères. Celui qui est notre maître. On le prend comme maître, à tous les sens du mot maître.
C'est une réflexion ou c'est une adhésion comme soudain je reconnais ça, j'ai ah, c'est ça. Est-ce que c'est une adhésion intellectuelle?
Non, mais ce n'est
Ou
pas seulement
théorique?
intellectuel puisque ça nous engage.
Oui, mais la reconnaissance, après le fait de faire comme on dit Chablais, soudain on est en union avec cette chose, on reconnaît cette chose. Est-ce que. C'est la suite de ma réflexion, c'est ma réflexion qui m'amène à. C'est
Oui,
une.
vous pouvez penser, c'est ma réflexion, mais ma réflexion, elle est fondée, par exception, elle est fondée sur la sortie d'Égypte.
Mais j'imagine mal la réflexion seule. C'est-à-dire la réflexion me mène après à comme une transformation de moi-même, parce qu'après c'est indélébile. Je peux pas, hélas, non, je crois que c'est pas délibéré.
Voyez bien qu'il y a des gens qui. Mais peut-être vous avez quand même pas tort, c'est-à-dire que en réalité, les gens se libèrent, mais ils sont pas vraiment fondamentalement libérés.
Ils sont coupables.
Ou bien ils se sentent coupables ou pas, mais au fond, ils sont pas, en tout cas, et même du point de vue d'Hachem. Hachem ne les a pas, complètement abandonné, quoi. Il Alors, d'après le Maharal, le galout de Mitzrayim, il a commencé dès que les Bnei Israël ont atteint le chiffre de 70. Avec Yocheved, qui à la naissance de Yocheved, ils sont devenus 70, la famille de Yaakov qui est descendue en Égypte. 70, ça correspond aux 70 peuples. Donc, ils ont accédé à une notion, à un chiffre qui fait référence à la notion de peuple. Et à ce moment-là, tout de suite, le galout commence parce qu'il est essentiel à la condition du peuple juif d'en passer par l'esclavage, en fait. Mais bien sûr, c'est dit, pourquoi? Parce que ce peuple va devenir le peuple d'Hachem. Et donc, pour ça, il faut d'abord qu'ils expérimentent l'esclavage. Et c'est difficile, évidemment, de mettre tout un peuple en esclavage. Il y a des différences entre les différentes tribus, etc. Mais tout ça a pour but d'arriver à, en fait, à un écrasement devant Hachem, d'une certaine manière. Et ils sont arrivés grâce à la sortie d'Égypte et au miracle dans le désert. Alors, cette idée de s'écraser devant Hachem, je crois qu'on n'a pas vu ça avec vous, mais il y a un midrash qui est sur le passouk qui dit que Hachem dans Parshat Tetzaveh, vous savez, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu dans la parasha, et Hachem lui dit à un moment donné, il lui dit, Ve'ata, et quant à toi, Akrev Elecha, rapproche de toi ton frère Aaron. D'accord? C'est Aaron, c'est quelqu'un de ton frère, il est de la tribu de Lévi. Lui et ses fils, tu vas les rapprocher de toi et ils vont devenir mes Kohanim. C'est-à-dire, ils vont devenir, à terme, c'est pas encore du tout maintenant, mais ils vont devenir le grand prêtre pour Aaron et les Kohanim pour ses fils. En fait, éventuellement, c'est pas vite parce que ces psukim-là, on ne sait pas exactement quand ils ont été dits. Est-ce que ça a été dit avant ou après le Vaudor? Si ça a été dit après le Vaudor, alors ils peuvent être tout de suite Kohanim parce que les prorotes qui étaient les Kohanim jusque-là se sont disqualifiés en participant au Vaudor, donc il faut les remplacer par les Kohanim. Si c'était avant, alors c'est bon, ils sont désignés maintenant, mais ils vont entrer en fonction seulement plus tard. Et sur ce passouk-là, il y a un midrash assez étrange qui dit la chose suivante. Que quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de rapprocher et c'est donc d'installer Aaron comme Kohen Gadol, pardon. Alors, le Midrash dit que Moshe l'a mal pris. En fait, Moshe le savait depuis longtemps, que c'est pas lui qui serait Kohen Gadol. Il le sait depuis le moment où Hachem l'a envoyé pour sortir les Bnei Israël d'Égypte. Comme vous savez, Moshe Rabbeinu avait refusé, parce qu'il voulait pas marcher sur les plates-bandes de son frère Aaron, qui était sur le terrain, et c'est son grand frère. Et Moshe Rabbeinu s'est entêté toute une semaine, et au bout de la semaine, Hachem s'est mis en colère contre Moshe Rabbeinu, et il lui a dit, OK, bon, alors, ce sera Aaron qui va parler, etc. C'est Aaron qui va devenir Kohen Gadol, et pas toi. Et bon, il le savait. Et le Midrash dit ici que il en a été affecté. Et du coup, le Midrash dit que il faut, pour comprendre un peu ce qui s'est passé là, il faut prendre un machal. une parabole. Et la parabole, c'est la suivante. La parabole, c'est l'histoire d'un chacham, d'un sage, qui a épousé une de ses proches. Une proche permise, bien sûr, mais une proche. Et puis, ils ont vécu 10 ans ensemble. Et au bout de 10 ans, elle n'avait pas toujours, elle n'a toujours pas eu d'enfant. Alors, il lui a dit, Bakesh li isha. Il lui a dit, trouve-moi une femme. Voilà les commentaires après. Ouais. Trouve-moi une femme. Et visiblement, elle ne l'a pas bien pris. Etc., comme vous pouvez imaginer. Alors Hachem lui a dit, tu sais, j'aurais très bien pu choisir une femme sans passer par toi. Mais j'ai compté sur ton humilité. Non, c'est le roi. Le roi, le chacham, pas le roi, le chacham. Son mari lui a dit ça. Là, voilà la parabole. Et maintenant, le Midrash donne toujours, comme toujours, il dit, OK, traduction chez Moshe Rabbeinu. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, j'aurais très bien pu nommer ton frère Cohen Gadol sans passer par toi. Et vu la parabole, on s'attend à ce que la suite ce soit, mais j'ai compté sur ton humilité, parce que Moshe Rabbeinu était plus humble que tout le monde, etc. Mais c'est pas comme ça que ça termine. Le Midrash termine en disant, Hachem lui dit, mais en fait, j'ai voulu que tu sois au-dessus de lui. C'est-à-dire, comme c'est toi qui vas le recruter, c'est toi qui vas l'installer, c'est vrai que c'est lui qui sera Cohen Gadol, mais toi, tu seras quand même toujours au-dessus de lui, puisque c'est toi qui l'as. Donc, ça veut dire, Hachem lui dit, tu vois, tu t'es pris la Kehuna, tu t'es disqualifié pour la Kehuna, mais tu restes quand même plus au-dessus de lui, parce que toi, c'est le côté de la Torah, lui, c'est la Kehuna, la Torah, c'est plus élevé que la Kehuna. Alors évidemment que on peut se demander pourquoi il est chacham là de dire à sa femme il vit avec une femme, c'est au bout de 10 ans elle n'a pas d'enfant, et il lui dit trouve-moi une femme. Il lui dit même pas trouve-moi une deuxième femme ou une autre femme, ça, trouve-moi une femme, comme si il n'avait pas de femme, alors qu'il parle à sa femme, celle avec laquelle, et il ne divorce pas du tout avec cette femme là. Il n'est pas du tout mécontent de cette femme, elle a pas d'enfant, et donc il veut avoir un enfant, donc il lui dit, trouve-moi une femme. Mais il lui dit même pas, trouve-moi une femme qui soit, peut-être, qui puisse avoir des enfants, etc., pour amener, pas du tout, tchac, le coup. Et puis ensuite, il lui explique, j'ai compté que comme tu es tellement proche de moi, c'est ça ton humilité, tu t'écrases devant moi, tu es très très proche de moi, ben, je peux te le demander de cette manière-là, j'ai compté là-dessus. Je voulais que tu sois, c'est aussi une façon, si on prend la suite, de façon de dire, c'est toi qui vas la recruter, donc c'est vrai qu'elle va être éventuellement la mère de mes enfants, mais tu seras toujours la première femme ou la, tu seras toujours au-dessus d'elle. Mais quand on regarde le Midrash, un peu à l'envers, ça veut dire que Moshe Rabbeinu est comparé à une femme stérile dans ce machal à l'envers. Et on peut se demander en quoi Moshe a démérité, si on considère, on a quelqu'un qui est là, c'est clair évidemment, voilà. En quoi est-ce que Moshe a démérité, pourquoi il ne peut pas être Kohen Gadol en fait, disons d'après ce Midrash-là. Et pourquoi? Parce que, voilà, parce que j'ai, ce que je pense, c'est la chose suivante. Je pense que quand on sert Hachem que ce soit dans le Mishkan ou dans le Beit HaMikdash, en vérité, c'est très très dangereux, parce que quand on donne quelque chose à quelqu'un, on a obligatoirement la tentation d'être en position de supériorité. Je te donne. Et évidemment, c'est un peu paradoxal parce que à Hachem, non seulement ce qu'on lui donne, C'est ce qu'il nous a donné. Et en plus, on ne peut rien lui donner parce qu'il lui manque rien. Donc, c'est un peu complètement fou de donner, d'apporter des corbanotes, des présents, des offrandes à Hachem, alors que ça n'a pas de sens. Les mots n'ont pas de sens par rapport à Hachem. Mais pour être sûr de ne pas avoir pas tomber dans ce piège-là, il faut s'écraser complètement devant Hachem. Si on s'écrase complètement devant Hachem, alors, comme je suis rien du tout, je peux pas m'imaginer que je suis en train de donner quelque chose à Hachem. Or, mon cher Rabbeinu, en son temps, il s'était pas écrasé devant Hachem. Hachem lui a dit, va sortir les bnei Israël d'Égypte. Et lui, il a répondu, non. Non, j'y vais pas. Pour des raisons que je peux donner, j'y vais pas parce que je veux pas marcher sur les plates-bandes de monde. Mais est-ce que tu penses sérieusement qu'Hachem n'a pas pris en compte cela? Alors évidemment qu'il l'a pris en compte parce qu'ensuite il va montrer, il va dire clairement à Moshe, tu vois, Aaron, quand il te voit arriver, je témoigne, dit Hachem, que ça marche Belibo, que lui, il se réjouit. Et pas simplement il fait bonne figure extérieurement, mais dans son cœur, moi je peux dire Belibo, dans son cœur, il se réjouit de te voir. Prendre la place que tu prends. Donc, tu t'es complètement trompé. Et du coup, il s'est disqualifié par rapport à la capacité de jouer le rôle de grand prêtre. Voilà. Ça, c'est une façon d'expliquer un peu ce fameux Midrash. Mais ce qu'on voit ici, c'est que pour servir Hachem, il y a un problème. Pour vraiment servir Hachem, il faut, d'une certaine manière, s'écraser devant Hachem. C'est ça, mais il faut non seulement le dire, mais il faut s'écraser. Et donc, c'était ça l'expérience de se sentir écrasé parce qu'on est esclave. Ils l'ont vécu, et donc ils ont été capables de le prendre sur eux volontairement par rapport à Hachem.
Excusez-moi, ce n'est pas la même sensation, excusez-moi, mais le fait de subir.
Non, mais eux, ils ne pouvaient pas faire autrement que de subir.
Oui,
ce n'est pas la même chose, mais d'avoir subi, ça leur donne une idée de ce que c'est. Alors après, ça a un sens de le prendre sur soi. Mais si on ne l'a jamais subi, si on n'a aucune idée, on ne sait même pas ce que c'est. Donc ça veut dire que ce serait des phrases vides que de dire je le prends.
Parce que c'est le même poids. Quand c'est quelqu'un qui m'oblige.
Mais je viens de vous expliquer que, évidemment, c'est pas le même poids, mais c'est le plus proche de ce qu'on puisse avoir, c'est-à-dire, j'ai vécu cette situation où j'ai été réduit à rien du tout, ils étaient moins que rien en Égypte, d'accord? Ils ont fait cette expérience-là. On peut pas faire plus d'expériences pour aller dans ce sens-là. Donc, ils ont fait l'expérience maximale qui leur permet de le prendre sur soi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est devenu évêque d'Hachem, et malgré tout, le problème du mal n'est pas résolu. Et comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on est évêque d'Hachem et qu'on continue d'avoir la possibilité de choisir de faire le mal? Ça veut dire que la avdout et l'éradication du mal sont deux choses différentes. Elles ne sont pas liées. Et ça, c'est le chidouche de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, quand il a discuté avec Hachem, après la faute du veau d'or, tout ce qu'il a voulu obtenir d'Hachem, c'est qu'Hachem soit parmi nous. Il a demandé à Hachem, continue d'être parmi nous, malgré le fait qu'on ne se conduit pas bien. C'est-à-dire, dissocier la présence divine dont on pourrait penser qu'elle est impossible si on se conduit mal. Mais effectivement, il l'a obtenu et ça se dit il y a un passouk dans le Sefer Vaikra, donc Doshim là-bas, qui dit Kadosh Baruch Hu, Ashochen Itam Betor Tumatam. Qu'Hachem réside parmi les Bnei Israël au sein même de leur Touma, au sein même de l'état d'impureté dans lequel ils sont suite aux fautes. Et on retrouve donc cette séparation entre le tikkun du mal qui s'est pas fait et la avdout. Ça existe aussi dans l'autre sens. Il y a une question, c'est Gemara, c'est Barré, qui a posé une question à Hillel et qui lui a demandé, mais comment est-ce qu'on peut entendre le passouk dans lequel Hachem dit Veshavtem uritem ben tzadik le racha ben oved elokim la sher lo avado. Or, il lui a dit, mais avado et lo avado, il dit, tous les deux sont des tzadikim gmurim en vérité. Tous les deux sont des tzadikim. Mais la question qui était posée à Hillel, c'est la question de, a priori, un tzadik et un oved, c'est la même chose. Et Hillel lui a répondu que non, pas toujours. C'est-à-dire que peut-être que les deux ont résolu plus ou moins leur problème du mal, mais néanmoins, en avdout, ils n'ont pas le même niveau. Rabbi Israël Salanter disait par exemple qu'on peut très bien arriver à un très très haut niveau en avdout d'Hachem, au service d'Hachem, sans l'étude du moussard, c'est-à-dire sans travailler sur ses midot. Mais pour faire un changement, passer du mal au bien, ça c'est pas possible sans travail sur soi. Et cette différence, si vous voulez, entre la avdout et la révolution de faire passer du mal au bien, c'est la différence qui existe entre la Géoula de Mitzrayim et la transformation du Klal Israël qui aura lieu à la fin des temps, dans la Géoula finale. On transformera le mal en bien. Ça veut dire que entrer dans la Avdout, ça peut se faire par Torah et Mitzvot, en étudiant la Torah, pratiquant les Mitzvot. Mais réparer, enfin, faire disparaître le mal, ça n'est possible que avec la Torah de Moussa, avec des remontrances, avec un travail, avec un travail sur les midot, sur soi-même.
Si on fait le petit peu de la société et puis de la parole à la partie de l'univers, il n'est pas le mal, mais la partie personnelle, en tout cas, il ne le fait pas. Il
Il est éveillé d'Hachem, mais il n'a pas résolu le problème du mal. Même à l'échelle personnelle, c'est pas sûr que on peut avoir, par exemple, des mauvaises midot, c'est-à-dire quelqu'un peut rester très coléreux, je sais pas, ou qu'est-ce qu'on peut avoir comme mauvaise, n'importe quelle autre mauvaise mida, d'accord? Mais ça l'empêche pas de faire les mitzvot, en fait. Ça devient une praxis, quoi. C'est-à-dire, ça correspond pas à ce qu'on attend de quelqu'un qui étudie, etc. On dit comment c'est possible. Oui, c'est possible. Comment c'est possible? Oui, malheureusement, c'est possible. Il y a des gens qui ont, que si on veut, ça les transforme pas obligatoirement. On a l'impression que on peut étudier la Torah sans être transformé, parce que pour être transformé, il faut étudier dans l'intention d'être transformé par ce qu'on va étudier.
Pour laisser rentrer la
Si
Torah.
tu veux pas te laisser bouleverser par la Torah, elle te bouleversera pas obligatoirement. C'est-à-dire, ça deviendra technique. Tu deviendras un très grand, peut-être un très bon connaisseur comme un professeur de droit, quoi, quelque part, qui obligatoirement peut, tu peux être professeur de droit, directeur de je sais pas quoi, à Sciences Po, etc., et pratiquer l'inceste, je veux dire, c'est aussi possible.
Mais
Pourquoi il a étudié, pourquoi il n'est pas changé? Parce que il sait pas, il a pas, cette étude n'a pas été faite pour être changée. Malheureusement, avec la Torah, c'est aussi possible.
alors, quelle est la motivation d'étudier la Torah dans ce cas-là?
Ben, c'est intéressant,
Ah,
ça,
c'est
vous
la
n'avez pas
question.
d'idée de ce que ça veut
Voilà.
dire.
Parce que comment
Il y a
on...
des pages de Talmud que des gens qui tiennent rien du tout ne changeraient pour rien au monde.
Je ne comprends pas. Puisque c'est, on est de la même nature, on est de même molécule que la Torah, de même essence. Si je lis la Torah, par devers moi, ça doit rentrer en moi.
Justement, c'est pas le cas.
Alors,
C'est seulement parce que vous n'avez pas, c'est pas vous, mais parce que si vous n'avez pas décidé d'être bouleversable, vous ne le serez pas.
ça se fait pas parce qu'on met une goutte d'eau là, une goutte
Il y a
d'eau
quelque
là,
chose qui va, oui, mais c'est pas comme ça. C'est pas une goutte d'eau. D'ailleurs, il y a des gouttes d'eau, suivant dans quel environnement vous allez la mettre, elle ne bougera pas.
là.
Oui, enfin, ça, les fautes, elles empêchent peut-être de comprendre les choses à un niveau où ça va me transformer. Mais elles empêchent visiblement pas de comprendre. Ça, c'est un peu mystique ce que vous dites, que les fautes vont empêcher. Bon, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. C'est pas, on peut très bien le lire de façon très universitaire, quoi, quelque part, et académique, ou si vous voulez, ça. En fait, il y a des psukim qui vont un peu dans le sens que vous dites. Parce qu'Hachem dit à Levaï que si seulement ils m'avaient abandonné, mais ils n'avaient pas abandonné la Torah, elle a une lumière qui va les ramener un peu. Donc ils vont un peu dans le sens de ce que vous dites. Mais en fait, il faut continuer de donner une certaine valeur à la Torah. Alors si on n'a pas de bonne midot, on ne donne pas une valeur à la Torah. Je crois qu'on peut très bien étudier la Torah, on peut même pratiquer les mitzvot sans être.
Mais ça, c'est la personne est dans un environnement où elle peut avoir regardé tout. Mais j'imagine un gars seul, ou avec deux ou trois personnes seulement sur une île, il n'a plus trop ce qu'on a trouvé parce qu'il n'a plus rien à. Et là.
Vous imaginez, mais je ne sais pas si
Oui,
vous avez
parce
raison.
que sinon, ça me désole.
Ah oui, bon, ben ça, c'est franchement dit. D'accord, mais bon. Non, plus rien, je sais pas. Bon, alors, le problème, c'est que si tu regardes, voilà, j'ai dit les paroles qu'il fallait dire, j'ai pas pensé à quelque chose de totalement inconvenant pendant que je l'ai dit, c'est bon, je me suis acquitté de la mitzvah.
Mais Rav, c'est clair qu'il parle. Le fait de pratiquer les mitzvot, ça veut dire qu'on va dans le sens où on apporte une forme de complémentarité ou de perfection au monde qui nous entoure. Donc, par là même, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le demande, par là même, forcément, on se hisse un petit peu plus haut que notre condition naturelle, non?
Mais le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Sinat Hinam, de la haine gratuite. On est d'accord que la haine gratuite, c'est une mauvaise mida, très mauvaise, oui. OK. Mais à cette même époque, il y avait beaucoup d'études de la Torah.
C'est ça qui est incompréhensible.
C'est ça, c'est ça le chidouche, si vous voulez. D'une certaine manière, c'est un chidouche qui est dû à l'intervention de Moshe Rabbeinu pour récupérer la relation avec Hachem après le veau d'or. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, du point de vue de la conduite, si on peut parler comme ça, du bitoul, on est sorti d'Égypte, on est infiniment reconnaissant, non? On vient de, ça n'a pas empêché les gens de mal se conduire. Vous avez des gens qui sont sortis des camps de façon miraculeuse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus des gangsters.
Oui, mais eux, ils pratiquaient pas les mitzvot.
Non?
Je ne sais pas si sûr que ça. Il y a peut-être des gens qui faisaient aussi ils étaient orthopraxes. Ils avaient une praxis orthodoxe, si vous voulez.
La Torah, ce n'est pas un entier. Si on fait un peu, on ne peut pas atteindre, espérer ce niveau d'influence malgré soi.
Mais ils s'en fichent, ils veulent pas. Ils pratiquent, ils font les mitzvot parce qu'il faut faire les mitzvot. Alors ils font les mitzvot. Ils
C'est
sont
pas.
dans un milieu, ils appartiennent à un milieu où pour rester dans ce milieu-là, il faut faire des mitzvot. Mais donc, ça les change pas. S'ils peuvent continuer de faire les crasses qu'ils ont l'habitude de faire, ils vont continuer de les faire.
Mais ça, on connaît l'expérience de laboratoire. Si on fait parce qu'on a entendu parler, qu'on fait qu'on n'a pas bien potassé la chose et avec
Mais
vérité,
ils
avec.
l'ont potassé, la chose. Ils la connaissent parfaitement bien. C'est ça que dont vous ne tenez pas compte. Techniquement, ils sont très au point. Ils savent très bien étudier.
Veulent encore s'améliorer, c'est encore. Alors, si le moussard est tellement important, comment ça
Le quoi?
le moussard me semble que, comment certaines, me semble-t-il, certaines yeshivot font de la. Que, il me semble que le moussard est arrivé beaucoup plus tard dans l'étude.
Non, parce que si vous voulez, l'expression Torah Moussar, elle est dans Michelet, elle est dans Shlomo HaMelech, elle est. Le Moussar dont vous parlez là maintenant, c'est un mouvement qui a décidé d'étudier d'une certaine manière le Moussar. Mais on a toujours étudié, il y a toujours eu des livres de Moussar et il y a toujours eu des gens qui ont lu certains textes, que ce soit de l'Agmara ou autre, et qui en ont tiré un Moussar, qui l'ont lu en essayant de se demander qu'est-ce que ça doit changer dans ma vie. Donc, ce dont vous parlez des yeshivot qui disent on va pas étudier spécifiquement du Moussar, ils veulent dire on va pas dire que voilà, tous les jours il y a une demi-heure où on va étudier d'une certaine manière en s'exprimant très fort ou des choses comme ça du Messilat Yesharim ou du Shaarei Torah ou Shaarei Teshuvah pardon ou des choses comme ça. Ça, c'est une chose qui a été plus ou moins suivie ou pas. Ça, c'est un mouvement qui a commencé avec Rabbi Israël Salanter et qui est, si vous voulez, un peu contemporain de l'invention de la psychanalyse ou des choses comme ça. Donc, un peu avant la psychanalyse.
Et alors, maintenant,
Mais maintenant, il y a toujours des yeshivot où on étudie du moussard, des yeshivot où on l'étudie pas vraiment, puis il y a des yeshivot où on étudie, mais les gens, une partie non négligeable des gens sortent à ce moment-là, ils vont étudier ailleurs. Ils n'étudient pas tout ça. Les gens qui sont pas pour, quoi. Ils pensaient qu'il n'y a pas, parce qu'ils s'opposent au mouvement Moussard, c'est-à-dire, il y a eu des excès, il y a des gens qui ont arrêté d'étudier l'Agmara, qui ne faisaient que du Moussard toute la journée. Donc c'est comme toujours, les excès sont mauvais et la façon de dire il faut l'étudier de cette manière-là, avec ça, ils n'étaient pas d'accord. Le Gaon de Vilna, il dit que il est bien avant la naissance du mouvement Moussar, mais il dit c'est sûr que de temps en temps, dans son étude, il faut s'interrompre et prendre un livre de ce qu'on appelle aujourd'hui un livre de Moussar pour essayer de pas oublier Hachem complètement, parce que tu peux trop bien oublier Hachem. Je vous ai souvent dit d'ailleurs que un des endroits où on peut beaucoup oublier Hachem, c'est le Beth Amikdash. Parce qu'on est tellement occupé par des questions techniques de comment il faut faire ça, est-ce qu'il faut tenir, il faut tenir les choses de cette manière-là, avec la main droite, c'est avec, il faut recueillir le sang, etc. Si tu es pris par la technique.
Je tombe des nues parce que je me sens que je me suis
Restez
donné ce
assise,
soir.
s'il vous plaît.
Non, mais le shiur de ce soir, c'est pour donner toute l'importance pour que la Torah soit une Torah de vie, d'action, de réalisation, ce soit appuyée par le Moussa, par le
C'est
travail
ça.
de
Il faut, pour que la Torah, hein, j'ai enseigné ça 20 000 fois, que pour que la Torah soit ce que moi je pense être un Torah, il faut vouloir que la Torah me change. Si vous ne voulez pas être changé par la Torah ne vous changera pas à votre corps défendant. Et à Pourim, ce qui s'est passé de tout à fait particulier, c'est que Hachem a montré qu'il s'occupe des Bnei Israël, même à l'intérieur de processus qui ont l'air complètement naturels. La lecture de la Megillah, elle raconte une histoire qui est complètement profane. D'accord? Dans l'histoire de la Megillah, si vous voulez la lire comme la lutte entre deux clans pour le pouvoir, vous pouvez le faire. Et vous avez un clan qui a l'air d'avoir gagné, puis un autre clan qui a réussi à mettre une de ses femmes dans le lit du roi, d'accord, et qui va essayer de retourner la situation, et qui va réussir à retourner la situation grâce à l'intervention de la femme. D'accord, ben c'est un scénario qui peut se dérouler dans n'importe quelle république bananière, quoi, et non bananière aussi d'ailleurs, peu importe. D'accord, donc c'est pas, y a rien de spécial dans cette Megillah. C'est simplement que nous avons l'habitude de lire la Megillah, nous savons comment il faut la lire. Mais autrement, c'est nous qui la lisons d'une certaine manière. Sinon, tout, il y a la lutte entre deux clans, dans un monde où tous les coups sont permis, pourquoi pas? Je veux dire, il y en a un qui est en train de gagner, et puis à la dernière minute, c'est un suspense, à la dernière minute, il retourne la situation. Et en fait, alors on a besoin d'éléments que les Chachamim nous donnent pour lire le texte en question d'une certaine manière. Mais Hachem a montré qu'il s'occupe des Bnei Israël dans une situation qui est complètement profane, c'est-à-dire qui est complètement dans la nature, quoi. De ce point de vue-là, c'est plus grand que ce qui s'est fait à Matan Torah. Matan Torah, c'est des choses qui sont extraordinaires. Donc, Hachem, ici, se manifeste. Là, c'est clair, tout est absolument clair. Mais que Hachem se manifeste dans une situation où on le voit pas du tout, il n'y a pas son nom dedans, d'accord? Ça, c'est encore plus important. Parce que ça montre l'amour, si on peut parler comme ça. La chaîne du clan d'Israël, qui va jusqu'à s'occuper du clan d'Israël dans une situation dans laquelle, a priori, il figure même pas. Alors, ce qui va être très important ici, c'est la façon dont nous allons lire les choses. C'est-à-dire, on va lire les choses et on va introduire dans cette lecture. On va interdire des choses très fondamentales, par exemple quand au tournant, quand on quand Mordechai et Esther décident qu'il faut faire quelque chose, alors Esther dit à Mordechai, elle lui dit, Knos et Tali, Knos, rassemble les gens. C'est la chaîne Betakneset, quoi, oui. Rassemble les gens. Rassemblez. Vous entendez, quand vous entendez rassembler, vous entendez en même temps, qu'est-ce qu'Aman dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Les Bnei Israël, ils sont justement dispersés. Donc, il faut faire le contraire. Il faut rassembler. Pourquoi? Parce que dans le monde d'en haut, dans le Amalek d'en haut, quand il y a ce problème de rassemblement qui se pose lui aussi, et donc il faut rassembler, il faut fabriquer de l'unité du peuple. Et on voit très bien que si on veut avoir un regard sur la solution finale, celle qu'on a vue malheureusement il n'y a pas si longtemps, et qui, elle, s'est pas soldée par mort. Et la grande différence, c'est qu'il n'y a pas eu de Knesset HaYehudim. Il n'y a pas eu d'unité de tous les Juifs. Les Juifs allemands, ils ont dit, on n'a rien à voir avec les pouilleux de l'Europe de l'Est. Et les Français, on n'a rien à voir avec les Allemands et les Suisses, on n'a rien à voir avec personne. Et les Américains, disent, ben non, on va pas déranger Roosevelt, etc. Et il y a eu des gens qui ont essayé de faire des choses et d'autres qui ont détruit ce qui s'est passé. Donc, il y avait un manque d'unité. Il y a eu des gens qui ont fait des choses extraordinaires, mais ils ont dû lutter parce qu'il n'y avait pas d'appui en général d'institutions, il n'y avait pas d'appui. On avait, par exemple, il y avait une proposition qui a été faite. On pouvait acheter les juifs roumains, on pouvait les acheter. 70 dollars. C'était beaucoup d'argent à ce moment-là. Et il y a Herman, l'un des grands scénaristes américains, qui a rassemblé déjà plein d'argent, mobilisé, etc. Et puis, le président du Congrès juif mondial, là, qui est un rabbin libéral, copain de Roosevelt, qui a dit que c'est pas vrai, etc. Il a fait capoter toute l'opération. Après la guerre, on a ouvert les archives de la BBC, et c'était vrai, on pouvait les acheter. Mais lui, ça le dérangeait, il faut pas, l'idée c'était, il fallait pas déranger Roosevelt. Donc, il n'est pas question il a pas laissé les Juifs essayer de parler à Roosevelt, lui expliquer les choses. Je pense qu'il aurait su céder, mais lui, il a empêché les gens d'arriver. Alors, et il y en a d'autres, les Suisses qui ont dit il y a trop de monde, on peut pas prendre trop de réfugiés parce bon, c'est comme ça. Il y a eu un manque très net de solidarité, malgré les individus ou les petits groupes de gens qui ont fait beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui a été sauvé grâce à eux, grâce à ces gens-là. Bon, mais donc on voit très bien que il y avait un travail à faire, que on voit très bien le galout, c'était un galout là-bas de dispersion, et le travail c'était de même, on n'a pas changé le galout, on était toujours en galout, mais il fallait se rassembler pour pouvoir avoir une démarche. Qui puisse d'une certaine manière représenter la démarche du peuple. On puisse dire que c'est une démarche du peuple et pas une démarche de trois pelés, quatre tondus qui veulent faire bouger les choses. Et ensuite, il a fallu, effectivement, d'abord, il a fallu que Mordechai prie d'abord. Ouais. Ça, la première chose, c'est Mordechai, il a commencé à pas prier parce que. Prier, c'est la première étape. C'est sur le modèle de Yaakov qui rencontre Esav. Il commence à prier. Après, il envoie des cadeaux. Et après, il se prépare, le cas échéant, à la guerre. Alors, c'est la même chose. Il a commencé à prier. Et ensuite, on a envoyé le cadeau, c'est Esther, quoi. C'est l'intervention d'Esther. Et puis après, bon, il pouvait pas vraiment se défendre si ça avait eu lieu. Je sais pas ce qu'ils auraient pu faire contre les décrets, enfin tous ces papiers qui étaient signés par officiellement par Achberoche, parce que le tampon il était dans la main d'Aman, mais il tamponnait à Achberoche. Il donnait toujours son sceau, et combien ensuite il l'a donné à Mordechai, il l'avait donné à Aman. Donc les papiers étaient signés, les décrets étaient signés à Achberoche. Le cadeau, c'est essayer d'amadouer. Alors, on a envoyé Esther pour que, en tant que son épouse, elle essaye d'intervenir. Jacob, il a envoyé des cadeaux parce que Jacob, il avait pas de femme, d'esclave à laquelle il pouvait essayer de parler pour qu'elle. C'est Jacob qui a caché Dina. Bon, ça, c'est déjà un autre problème parce que il a fait exactement le contraire, quoi, Jacob. Donc ça, on le lui reproche. Donc, on a fait le même procédé. Et ensuite, Esther, elle a joué son va-tout parce qu'elle a risqué sa peau. Parce que le cinglé, là, s'il vous touche pas avec son sceptre, vous êtes mort avant d'avoir dit quoi que ce soit. Donc, elle pensait, c'est ce qu'elle a dit à Mordechai, ça fait 30 jours qu'il m'a pas appelé, donc il doit avoir d'autres femmes dans son lit, donc il a pas besoin de moi, quoi. Et donc, si j'y vais, je risque ma peau. Et j'aurais peut-être même pas le temps d'ouvrir la bouche. Bon, alors, Hachem a fait en sorte qu'elle a eu le temps d'ouvrir la bouche, mais le problème, c'est que quand elle a ouvert la bouche, elle savait pas quoi dire. Quand tu lui as demandé qu'est-ce que tu veux, je te donne la moitié de mon royaume. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Écoute, viens boire un pot demain chez moi. C'est ce qu'il lui a proposé. Et quand elle vient boire un pot, il lui dit, alors maintenant, qu'est-ce que tu veux? Et puis elle lui dit, viens boire un pot demain. C'est un mauvais scénario, non? Hein?
C'est une bonne recette, ça a marché.
Ça n'a pas marché tellement parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois que la deuxième fois, elle a été obligée de dire quelque chose. Et elle n'avait pas été, ou bien elle n'a pas compris ce que Mordechai lui a dit. Mais quand elle a dit, ce que je veux, c'est, je veux la vie de mon peuple, etc. Et parce qu'il y a un type qui est en train de manigancer pour nous tuer tous, etc. Et Achashverosh, je sais pas si il a fait exprès, il a fait comme s'il savait pas, ou s'il savait pas vraiment jusqu'où ça allait, parce que c'est pas lui qui a signé, mais il a demandé, mi ouze veze ou Hashem la olibo, qui c'est qui a eu la chutzpah? En fait, ça veut dire de tuer une partie de mes gens. D'accord? C'est en fait, on est en train de tuer une partie de mon peuple. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Elle a pointé à Hachveroche. Parce que les papiers, ils étaient signés à Hachveroche. Et vous imaginez si ça s'était fait. D'accord? Vous savez bien qu'il y a eu Gabriel qui est venu. Il a bougé son bras et ça a pointé sur Aman. Mais elle-même, elle a pointé sur Hachveroche. Si elle avait pointé sur Ahasvéros, si c'était resté comme ça, Ahasvéros était mort parce qu'Aman l'aurait tué à ce moment-là. Et Aman savait qu'elle était juive. C'était terminé. On était fichu. Mais plus. C'est-à-dire que Esther elle-même, au fond d'elle-même, elle sait qu'elle s'est trompée. Elle sait qu'elle a eu une aide du ciel pour que son erreur ne porte pas à conséquence. Parce que sinon, elle aurait tué le peuple. Elle aurait contribué à tuer le peuple, à se tuer elle-même et à tuer le peuple.
Donc Esther a été un outil d'Hachem et au début, il a pas mis au courant, quoi. Il a...
Non, mais elle a été mise au courant, mais je sais pas, elle a réfléchi par elle-même, elle avait raison, hein. Les décrets, Miouzé, Vézé, oui, la crapule, c'est signé à Pacheroche.
on le sait, ça affecte leur
Ah,
intimité.
C'est mes sources personnelles. C'est pas vrai, mais évidemment, on le sait. Les Chachamim nous ont enseigné ça.
Je
Ah.
veux dire, c'était dans l'intimité de
Mais
leur.
si ça se trouve, c'est Esther qui leur a dit. Esther, elle leur a dit.
Il y a beaucoup de similitudes avec l'histoire de Moshe Rabbeinu, qui a été élevé dans le palais de Pharaon, qui a voulu aussi prendre la couronne, et puis il y a l'ange qui lui a dévié et qui lui a pris la braise. Qu'est-ce qu'on doit comprendre?
On va comprendre qu'Hachem corrige les bêtises des hommes quand il s'agit de sauver le clan d'Israël.
Mais
On ne peut plus
au
arriver
niveau
tout
des personnes.
seul. On ne peut pas arriver. Bon, là, Moshe Rabbeinu, Moshe était un enfant à ce moment-là, donc, mais bon, il fallait préserver Moshe. Parce que, bon, si on avait tué Moshe, comme on sait par la suite, Hachem va dire que si c'est pas Moshe qui sort les Bnei Israël d'Égypte, on sort pas d'Égypte. Il n'y a que Moshe qui était capable de nous sortir d'Égypte. Il est le chliard d'Hachem, bien sûr, mais ça doit passer par lui. Il n'y a pas de possibilité de le remplacer. Et au moment où il fait pas la mila de son deuxième fils et qu'il est sauvé par Tzipora, d'accord, lui là-bas de nouveau il risque sa peau. Moshe Rabbeinu, il est sauvé par sa femme. Mais si, c'est presque incompréhensible, parce qu'Hachem est en train de le tuer, alors qu'il n'y a pas d'autre solution pour sortir les Bnei Israël, ça veut dire, ce serait faire échouer le projet divin.
Mais
Si sur un...
pour Esther, Mordechai lui a dit qu'elle serait, comment dire, on aurait pu passer par elle, qu'il y ait une autre personne, c'est ça?
Alors, ce qui s'est passé, c'est bon, c'est une chose que j'ai pas, la vérité, je l'ai pas vraiment bien digérée. D'accord? C'est que elle, quand Mordechai lui a dit qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose, alors elle lui a expliqué, ça fait 30 jours qu'il m'a pas appelé, donc il y a toutes les chances qu'il ait une autre femme. Et donc, comme quand on va le voir sans avoir été convoqué, on risque sa peau et que le seul moyen de te sauver, c'est qu'il vous touche avec son sceptre. Et qui vous donne la vie, en quelque sorte. Puisque ce fou, il se prend pour Dieu, donc, il vous donne la vie, à chaque fois. Et donc, s'il me donne pas la vie, je suis mort tout de suite. On tue tout de suite les gens qui ont osé se présenter devant lui sans y avoir été invités. Et donc, c'est ce qu'elle lui a dit. Et lui, il a fait comme si elle voulait pas y aller. Elle a jamais dit qu'elle voulait pas y aller. Elle lui a mis au courant que il faut pas trop compter là-dessus parce que, même si j'y vais, c'est pas sûr du tout que j'aurai même le temps d'ouvrir la bouche. Et lui, il lui fait un procès d'intention, il lui dit, t'imagines pas que tu vas être sauvé, planqué au palais, etc. Le salut viendra d'ailleurs. C'est pas, ça vient ailleurs, c'est Hachem. Hachem nous sauvera, dit Mordechai. Et ce qui va advenir de toi et de ta maison, paternelle, ce qui est très étrange parce que sa maison paternelle, c'est lui-même. C'est marqué qu'elle a plus de parents. Donc sa maison, elle, c'est lui. Il dit, toi et ta maison, vous serez perdus. Ça veut dire, il est en train de dire que lui aussi, il va être perdu. Et donc, voilà, tu risques. Je sais pas pourquoi il lui parle tellement durement. Mais en fait, ça a marché parce que il lui parle durement, mais à ce moment-là, tout change et c'est elle qui devient le boss. C'est elle qui dirige à partir de ce moment-là. C'est plus Mordechai.
Peut-être ces paroles dures qu'il a eues et tout, c'était pour que cette.
Peut-être, on peut. Il faut être Dan Katsuot Mordechai parce que sinon, je trouve que c'est pas gentil. Pardon? Oui, non, mais il parlait par intermédiaire bienveillant. Al tedami benafcher, Malet, t'imagines que toi tu vas être la seule sauvée, et crois-moi. Oui, non, mais vous êtes l'accusatrice, d'accord. D'accord, c'est votre problème. Moi, je trouve que c'est par rapport à Esther, je trouve que c'est pas trop sympa. Mais bon.
C'est pas ça, mais si on voit, moi je
Oh, oui,
comprends.
non, mais c'est insupportable. Écoutez, bon, d'accord, d'accord, on parle d'une femme, alors tout de suite, les femmes, l'attaquent, c'est une autre femme, il faut l'attaquer, n'est-ce pas? C'est,
Non, vous
heureusement.
savez,
Oui,
c'est
non.
quelqu'un d'une certaine léthargie, d'une certaine.
Ah oui, c'est une léthargie quand on vous dit dire écoute si je vais là-bas, je te garantis pas du tout que je pourrai ouvrir la bouche parce que j'ai toutes les chances d'être tué tout de suite dès que j'arrive, c'est pas une léthargie.
Elle est d'abord, elle voit le côté, lui. De toute façon, il y a le précipice. Donc, soit tu vas me prendre avant, soit tu cherches à trouver quelque chose, à innover quelque chose. Non?
Innover, ouais.
Ben, je ne sais
Qu'est-ce
pas.
qu'elle peut faire, elle?
Ben, la
Elle
preuve, c'est qu'elle l'a fait. Hein.
Mais elle était toujours prête de le faire. Elle n'a jamais dit que je
J'en
le
sais
fais
rien.
pas.
Pourquoi vous dites qu'elle était prête
Mais
elle
pourquoi
était
vous dites
prête?
le contraire? Parce que le texte dit qu'elle, le texte ne dit pas qu'elle a dit non. Le texte
Non?
dit, elle lui a dit, si tu, ça fait 30 jours que j'ai pas été appelé, donc il faut que tu saches un peu la
Eh ben,
situation.
elle résonne dans un système limité, bordé spirituellement plus grand.
Sais pas, c'est sûr, ça.
Ah, j'ai cru, alors que j'ai mal entendu quand vous me disiez des choses, je croyais que bordé c'était spirituellement plus grand. Alors,
Mordechai était grand, mais est-ce qu'il était plus grand qu'Esther? Non, c'est pas rien.
parce que Esther, il y a Esther du début, qui est, moi, un petit peu gentille. Et puis
Mais
Esther de la fin qui
elle est une
prend les
pauvre
choses
fille,
en main.
elle est une pauvre femme. Elle était raptée par les gens d'Arachvéroch.
Fait, j'ai beaucoup
Elle
de.
atterrit dans. Elle était une jeune femme heureuse, etc. Elle atterrit dans le harem de cette
D'accord.
crapule d'Arachvéroch.
Mais je ne dis pas ça. Des fois, vous êtes tranquille chez vous, et vous mettez dans des trucs, dit qu'est-ce que j'ai fait au bon
Mais ne
Dieu
dites
pour
pas
être
qu'elle.
là?
Ouais, oui, elle peut se demander. D'ailleurs, celui qui se demande ça, c'est Mordechai, d'ailleurs. C'est Mordechai, la date. Et lui, il se promène tous les jours devant le palais pour savoir qu'est-ce qui arrive avec Esther. Oui, il dit, mais pourquoi elle a été prise, ça? Pourquoi c'est elle? Non, ben, il est curieux. Il veut savoir. Il veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, il est préoccupé.
Il sait qu'il y a Hachem comme interprétation, mais il ne sait pas quoi. Alors,
Esther aussi, elle sait qu'il fait quelque chose.
sûrement, je la trouve, j'ai tort, sûrement, mais entre l'Esther d'avant et l'Esther d'après, on dirait qu'on est chez un
Évidemment, elle
autre.
avait. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avant? Et vraiment, vous êtes insupportable.
Non, mais je veux dire qu'elle, pas simplement, elle couvait l'Esther qu'elle est devenue. L'Esther qu'elle est devenue, elle
Ben voilà,
passe.
alors c'est ça. Quand on couve, c'est très important. Vous couvez la grippe. Après, quand vous avez la grippe, vous avez la grippe. On est couvé la grippe. C'est insupportable, vraiment. Après, on parle de solidarité. Aucune solidarité. C'est un vrai scandale ambulant. Pardon? Oui. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il l'a regardé faire, hein. Ils l'ont prise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a défendue? Il
Ils ont
pouvait
dit pour
pas.
qu'elle aille chez le roi, c'était flatteur,
De quoi? Flatteur.
non?
C'est une femme mariée.
Ah, c'est déjà ça, je veux dire. Elle est mariée, elle n'est pas la superstar. Qu'on vienne la chercher, déjà,
Oui,
c'est agaçant.
déjà. Oui, déjà. J'en ai d'accord. Hein. Elle aussi, elle se demande qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que.
Mais Rav, si elle est mariée, alors il faut qu'elle divorce et il lui a
Pas
donné
elle
le
qui
guet.
divorce. Et si quelqu'un doit divorcer, c'est Mordechai qui doit divorcer. Mais il a décidé que ce n'était pas nécessaire de divorcer.
Ah, ça, je n'ai pas compris. Je ne veux pas rentrer
Non, mais
là-dedans.
ça, je ne vous expliquerai pas.
Ah.
Encore avec le vent.
Ouais.
Ouais, il y a de quoi être complètement perturbé alors.
Oui, bon, d'accord. Vous êtes médecin, donc.
Perturbé, hein. C'est la première fois.
Bien sûr que c'est un peu compliqué à comprendre.
Mais donc, elle relevait de l'autorité de Mordechai et pas de celle d'Achashverosh.
L'autorité, vous savez, quand Sarah était chez Paro, elle relevait de l'autorité d'Abraham Avinu, mais elle était dans les mains de Paro. Hein. Et quand elle a dans les mains d'Achashverosh de Abimelech. Qu'est-ce que vous voulez faire quand une femme est raptée? Elle est, on l'a amenée 6 mois dont elle était le baignoire et 6 mois dont elle était l'autre, ah, etc. Parfumée comme ci, parfumée comme ça.
Mais quand c'est comme ça, on peut rien faire, alors c'est
Faire, on ne peut rien faire.
Le mari a l'obligation de reprendre sa femme
Il l'a pas, il l'a
parce qu'il
jamais, il
a
l'a jamais, il a le droit de la reprendre de toute manière, parce que bon, parce qu'on, c'est-à-dire, il avait le droit jusqu'au moment où elle est allée volontairement.
Oui,
Et pourtant, là, c'est aussi tout un problème. Ça vrai que ce un,
c'est
il avait été Cohen, il n'aurait pas pu la reprendre.
Elle a fait Navera Lishma.
Pardon?
Elle a fait Navera Lishma.
Oui, mais vous savez, même avec Avera Lishma, Yael, elle était interdite à son mari. Avera Lishma, mais interdite à son mari. Halakhiquement.
Oui, mais Esther, elle a été voir Achashverosh sur les conseils de Mordechai.
Même sur les conseils, peu importe. C'est Avera Lishma, un homme, il est pas, il n'a pas le droit de prostituer sa femme.
Alors, comment se fait-il que Mordechai ait été aussi mordant avec Esther?
Non, mais il y avait tout le peuple juif qui allait mourir. C'est quand même, il y avait une grosse pression, un décret là qui allait tomber. Donc, il fallait faire quelque chose. On pouvait pas être simplement dans la lignée de ce qui est écrit.
Non, mais elle, personne ne voulait, personne ne refusait de faire quoi que ce soit. Esther a simplement expliqué à Mordechai ce qui, quelle était la situation. Elle lui a dit, voilà, il y a beaucoup de chance, ne compte pas sur le, je vais y aller, mais ne compte pas que ça va marcher parce que, ne sois pas sûr que ça va marcher parce que si ça se trouve, j'aurai même pas le temps d'ouvrir la bouche.
Donc elle a
Donc,
été courageuse.
on a
Elle a
affaire.
été, oui, elle a été courageuse alors.
Bien sûr qu'elle était extrêmement courageuse.
Mais après, quand elle va avoir un fils avec Achashverosh, ce fils, il sera pas un mamzer?
Pourquoi mamzer? Non, 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 avec un goy, ça ne donne pas mamzer.
Ah.
Est-ce qu'il est juste en plus parce qu'il est belle?
Oui.
Mais on ne peut pas parler de prostitution là, quand même,
Non,
c'est
mais parce
vraiment
que quelqu'un a
un
dit que. Non, non, je n'ai pas dit que. Si quelqu'un a dit à un homme, elle a envoyé sa femme avec son accord, il ne peut pas envoyer une femme avec son accord. On n'est pas chez les Inuits, là. Ou pour donner du kavod aux invités, on leur permet de coucher avec la femme, etc. Mais personne veut. Il n'y a pas de volontaires parce que comme elles sont enduites d'huile de phoque ou de je sais pas quoi, qui sont pas très bons, personne n'est volontaire. C'est comme ça que j'ai appris dans ma jeunesse. C'est pas vrai d'ailleurs.
Mais ça serait passé par qui quand Mordechai dit si ça passe pas par toi, ça passera autrement. Il visait quoi?
Non, lui, il a confiance que Hachem va sauver le clan d'Israël. Il dit, Bimakom Acher, il dit, ça viendra d'ailleurs.
Mais c'est là, il comptait sur un miracle?
Makom, c'est un nom divin. Makom, c'est un nom pour Hachem. Baruch HaMakom. On dit dans la Haggadah Pessah aussi. Oui. Donc, il lui dit, on va être sauvé. Si c'est pas par toi, ça sera d'une autre manière. Et si toi, tu as rien fait, tu risques de va te retrouver la seule. Mise de côté, quoi. Et c'est toi, il n'y a que toi et ta famille qui allez en pâtir. Pardon? Non, non. Il lui dit que si toi tu n'y vas pas, on sera sauvé d'une autre manière. Si tu y vas, ça pourra sortir. Il n'en sait rien. Il est pas dans le coup. Il peut pas savoir ce qui va se passer. En fait, je crois. Non, mais c'est un grand ami de ma femme. Mais peut-être qu'il a une dimension prophétique. Je ne sais pas parce que ça dépend qui a écrit la Megillah. Parce que la Megillah, elle a été écrite de façon un peu prophétique. Alors, Esther et Mordechai, c'est pas très clair. Voilà, on va s'arrêter là, vu que vous avez assez maltraité Esther. On s'arrête.